Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Sylvain Waserman, député du Bas-Rhin, vice-président de l'Assemblée nationale, à propos d'un groupe de travail qu'il a présidé sur le mode de fonctionnement de l'Assemblée en période de crise. Une commande demandée par le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, en mai 2020. Sylvain Waserman, bonjour. Alors, une étude demandée à la sortie du premier confinement, je suppose que ce n'est pas un hasard du calendrier ?
Oui, bien sûr. Comme toutes les organisations, l'Assemblée nationale a dû s'adapter. Et donc, il s'agissait d'avoir un retour d'expérience et d'apprendre de la première crise pour voir comment se projeter vers l'avenir. Et j'aimerais insister sur le fait que l'Assemblée nationale a certaines fonctions qui ne peuvent pas s'arrêter. Par exemple, alors je sais qu'on dit souvent il y a trop de lois, etc. Mais par exemple, toutes les décisions, qui ont été prises par ordonnance, par le gouvernement, que ce soit sur le confinement, que ce soit sur les restrictions de liberté individuelle, de circulation par exemple, sont des décisions qui ne peuvent être validées que par l'Assemblée nationale. Donc ces fonctions, c'est des fonctions essentielles en cas de crise, et on ne peut pas juste fermer pendant 3 mois et se donner rendez-vous 3 mois après.
Non, donc vous êtes obligé d'adapter votre travail, et puis les sessions évidemment. Vous avez composé un groupe de travail avec des membres de tous bords politiques. C'était une façon pour vous de garder une certaine cohésion ?
Oui, alors il y a quelque chose d'absolument majeur que je voudrais expliquer sur ce sujet-là. Toutes les décisions, mais je dis bien toutes les décisions qui ont été prises pendant la première vague et pendant la deuxième également, ont été prises à l'unanimité des groupes politiques. Donc c'est vrai qu'on est tous habitués au combat et à se chamailler politiquement sur tel ou tel sujet, telle ou telle loi, mais quand il s'agit des fonctions essentielles de fonctionnement démocratique de l'Assemblée, c'est très important d'expliquer aux auditeurs que 100% des groupes politiques, de la France insoumise au LR, en passant par la majorité bien sûr, ont convergé unanimement sur les décisions qui ont été prises par Richard Ferrand. Donc aucune de ces décisions, qui pourtant étaient fortes, je vous rappelle, au tout début de la première vague, on avait 1 ou 2 députés par groupe, on avait après une jauge très basse. Aujourd'hui, on est à 1 député sur 2, ce qui permet d'avoir une délégation pour le collègue qui ne peut pas être physiquement présent. Donc toutes ces décisions-là ont été prises à l'unanimité. Maintenant, la question, c'est quel retour d'expérience, qu'est-ce qu'on apprend pour l'avenir et qu'est-ce qu'on met en œuvre ?
Alors justement, vous vous êtes basé sur le retour d'expérience du Parlement européen et du Bundestag. Quels sont les éléments retenus ?
Oui, alors d'abord dans la méthode, j'ai d'abord rencontré chacun des 10 groupes politiques indépendamment, un à un. On avait en plus de ça nos réunions thématiques sur les comparaisons par rapport au Parlement étranger, sur l'utilisation des outils numériques, puis des sessions tous les 15 jours qui m'a permis de remettre un rapport là en septembre. Un rapport au président Ferrand et qui va se traduire après dans des textes un peu plus détaillés. Grosso modo, il y a quatre volets. Le premier point, ça concerne la gouvernance. Alors, je le fais rapidement, mais la gouvernance, c'est la façon dont on décide les choses. Le deuxième point, c'est une véritable boîte à outils où on utilise différemment des outils pendant cette période de crise. Je vous donne un exemple tout simple. Certains députés sont empêchés de venir physiquement dans l'hémicycle. Et donc, on met en place les contributions écrites qui leur permettent de donner leur avis, alors donner leur avis avec inscription au journal officiel, donc de donner clairement leur avis sur chacun des textes qui sont débattus, et même de commencer l'intervention des rapporteurs, des ministres, par une réponse à ces contributions écrites. Donc ça, c'est un exemple d'un de ces éléments de la boîte à outils, il y en a beaucoup en réalité. Toutes ces idées-là sont nées, des 60 idées qui sont nées, des rencontres avec chacun des groupes politiques. Donc, on a eu ce brainstorming et ça a donné cette boîte à outils qui est le deuxième volet de mon rapport. Le troisième volet, c'est celui qui est le plus sensible, c'est l'utilisation des outils numériques. Il faut savoir que pour pouvoir utiliser des outils numériques, il faut changer le règlement intérieur. Et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale ne se change que par une loi. Une loi en commission des lois, puis en hémicycle, puis avec une revue du Conseil constitutionnel, parce que ce règlement de l'Assemblée nationale, c'est pas quelque chose qu'on décide sur un coin de bureau à 3 ou 4, c'est le fonctionnement démocratique de notre Assemblée. Et donc pour ça, et pour l'utilisation du vote à distance ou du débat à distance, alors il y a une modification du règlement intérieur qui doit se faire. Donc ça, c'est le troisième volet. Et puis enfin, le quatrième volet, c'est la possibilité de recherche de sites alternatifs, c'est les sécurisations des outils informatiques. Dès lors qu'on utiliserait des outils de vote à distance, par exemple, il faut un degré supérieur de protection dans les systèmes informatiques. Donc tous ces éléments qui sont des éléments, d'organisation qu'on doit mettre en place pour se préparer à une éventuelle prochaine crise.
Vous avez proposé de vous réunir au Parlement européen à Strasbourg en cas d'inaccessibilité de l'Assemblée. Vous regrettez, vous, les sessions parlementaires annulées à Strasbourg ?
Alors,
c'est un autre sujet.
Non, mais il est tout à fait pertinent en l'occurrence. L'idée, elle est simple, c'est de prévoir les crises, pas seulement les crises sanitaires telles qu'on les connaît, mais par exemple la crue de la Seine, la fameuse crue qu'on attend, qui arrivera peut-être un jour et qui risque de neutraliser le Palais Bourbon. On a plusieurs sites possibles, il faut juste se préparer. Évidemment, il y a Versailles qui est le site dans lequel on se réunit pour le congrès quand on est avec le Sénat. Mais ce site n'est pas du tout adapté. Il va très bien pour une après-midi ou une journée, mais pas du tout adapté pour du travail parlementaire dans le temps. Et donc, évidemment, en tant qu'élu de Strasbourg, je pense tout de suite au Parlement européen, qui lui est parfaitement fonctionnel, parfaitement utilisable, et d'ailleurs, qui nous a ouvert grand ses portes pour l'Assemblée parlementaire franco-allemande, qui se réunit de temps à autre entre 50 députés du Bundestag et 50 députés de l'Assemblée nationale. Donc, oui, je pense qu'il faut promouvoir les sites qui sont opérationnels et fonctionnels dès lors qu'on aurait un blocage et une interdiction d'accès, une impossibilité d'accès au Palais Bourbon. Sur votre question, est-ce que je regrette ? Bien sûr, je pense que l'exemple de ce qui s'est passé cette semaine, j'étais hier avec des parlementaires européens, il y en a 7 ou 8 qui ont décidé de venir à Strasbourg malgré la situation actuelle. Je vous rappelle au passage que eux ne touchaient pas leur forfait de remboursement de dépenses qu'ils peuvent avoir quand ils vont à Bruxelles. Mais ils l'ont fait quand même parce que c'est un acte symbolique et tant pis, ils ont payé de leur poche. Mais ils sont venus à Strasbourg pour dire le site de Strasbourg doit être le site principal, est d'ailleurs le site du siège et doit être considéré comme tel. Donc effectivement, c'est un combat qu'il faut continuer à mener. Je sais que Clément Beaune est parfaitement mobilisé sur le sujet, notre ministre, et nous le sommes également.
Alors concrètement, ce rapport que vous avez présenté a été adopté le 17 novembre dernier. Est-ce qu'il est applicable dans l'État et dès aujourd'hui ?
Alors il y a beaucoup de choses qui sont applicables en l'État dès aujourd'hui. Tout ce qui concerne les boîtes à outils, tout ce qui concerne les projets de sécurisation ou de recherche de sites alternatifs, tout ça est en cours. Certains de ces éléments de boîtes à outils sont bouclés, d'autres sont encore en cours de développement, puisqu'on avait anticipé par rapport à la décision d'il y a 2 semaines.
Oui.
Maintenant, l'enjeu essentiel, c'est cette modification du règlement dont on a parlé. Et la question qui, ne fait pas consensus, c'est quel est le mode de décision pour l'utilisation du vote à distance. Est-ce qu'une majorité seule peut décider de basculer dans cette utilisation des outils à distance ou du vote à distance ? Est-ce qu'il faut une majorité qualifiée ? Comment on se positionne ? Ça, c'est le débat qui est en cours. Et le président Ferrand m'a mandaté pour essayer de trouver le point d'atterrissage sur cette solution-là, sachant qu'il ne s'agit pas... il s'agit d'avoir une décision assez consensuelle, le plus consensuelle possible, avant de trancher définitivement et avant d'en faire un texte de loi qu'on présentera, comme je le disais, en commission des lois, puis en hémicycle qu'on débattra, puis qui sera présenté au Conseil constitutionnel.
Est-ce que vous pensez que le travail à distance pour un député pourrait être pérenne à l'avenir ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer avec peut-être des économies à la clé ?
Alors, d'abord sur les économies, je ne pense pas que ce soit le sujet clé. La démocratie a un coût. Quand on prend le train, on n'affrète pas un train spécialement pour nous. Donc en réalité, pour être tout à fait clair, qu'il y ait 30 députés de plus le mardi matin quand on va à l'Assemblée, ça ne change pas. Ça ne change pas le coût pour la SNCF. Et vous voyez, c'est...
Non, mais je parle d'économie en termes d'énergie, en termes de présence, de oui. Fatigabilité, enfin ce genre de choses.
Personnellement, je pense que la tradition démocratique française est très axée sur le débat et sur le présentiel. Donc oui, pour tout ce qui concerne les réunions de travail, typiquement le travail en commission, il y a beaucoup de réunions de travail préalables, les missions d'information, tous ces sujets-là peuvent très bien basculer sur le visio. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait et on utilise beaucoup ces outils-là. Pour tout ce qui ne concerne pas le cœur de l'activité parlementaire, à savoir le débat en hémicycle, le débat, la confrontation d'idées et le vote. En temps normal, je milite pour qu'on garde cette tradition française du débat et du vote. Et tous ceux qui le vivent savent que Évidemment, Zoom ou tout autre outil à distance, c'est très bien. Ça permet de gérer la crise et ça permet de continuer à travailler, il n'y a aucun problème. Mais si vous avez une vraie session de débat, de négociation, dans le monde des affaires, un contrat compliqué à négocier, une décision difficile à prendre, ben vous préférez être en présentiel. C'est-à-dire que c'est des outils complémentaires, c'est pas des outils qui se substituent complètement, à mon sens, au travail de tous les jours. Donc oui, pour donner une place significative dans le travail de tous les jours du député, non, pour remplacer le présentiel, le débat, la culture du débat qu'on a dans notre hémicycle. Donc voilà, il faut trouver la bonne jauge. En tout cas, mes travaux ne concernent que cet aspect de basculement en cas de force majeure qui empêche l'exercice normal de notre activité. En aucun cas, il s'agit de faire un e-parlement sur lequel vous voteriez en appuyant sur votre smartphone entre une pizza et la dernière émission de télé, pour vous dire non, c'est pas possible. L'acte de vote est un acte important, le débat est un débat important. Pour être au perchoir de l'Assemblée nationale en tant que vice-président, je vois souvent combien un texte qui commence, par exemple, j'ai beaucoup d'exemples en mémoire, où les textes commencent dans une situation un peu tendue, et puis finalement, au fil des discussions, au fil des changements de position, la situation évolue, le texte évolue, un avis qui aurait pu être défavorable du ministre devient favorable ou du rapporteur. Donc on a, je crois, cette dynamique du débat démocratique qui doit être absolument préservée. Quand on vient le voir dans l'hémicycle, quand on vit ces moments-là, on se rend compte que ça, on ne peut pas le remplacer par une réunion Zoom ou un vote à distance sur tout et n'importe quoi, n'importe quand. Donc soyons, passons la première étape, qui est d'utiliser ces outils numériques en cas de crise, en cas de force majeure, et on verra après la façon dont on arrive à l'intégrer dans notre travail au quotidien. Mais je crois que la fonction essentielle de l'Assemblée, du débat et du vote, doit rester sur une certaine forme présentielle. Il en va de même de l'autre fonction du Parlement, qui est essentielle, c'est le contrôle de l'action du gouvernement. Les questions au gouvernement, c'est des moments parfois que je trouve exagérément exubérants, mais on ne remplacera pas ça par une question par email à un ministre ou par Zoom. Donc ça n'aurait pas l'impact que peut avoir la réalité du débat démocratique auquel personnellement je suis très attaché.
Sylvain Waserman, député du Bas-Rhin, vice-président de l'Assemblée nationale. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour Radio Judaïque à Strasbourg.
C'est moi qui vous remercie et merci pour votre intérêt sur ce sujet.